Chapitre 12. Épilogue. Le coquin, le monstre. Quel bonheur qu'il soit pris. Dites-le. Conversation sentimentale. C'était, je crois, vers les premiers jours du mois de mai. Le soleil jetait sa poussière d'or à la façade des sombres édifices. Sur la place du vieux marché de Liège se dressait un échafaud, avec ses poutres noires de sang et son couperet d'acier qui scintillait de loin comme une étoile. Les rues tortueuses dégorgeaient sur la place une foule immense et déguenillée. Les balcons étaient garnis de la société la plus brillante. De jeunes femmes y étalaient leur parure, de fiers dandys promenaient leurs lorgnons sur le pavé de tête qui s'étendait au loin. Ce beau monde et cette canaille étaient venus voir guillotiner un homme. Ils attendirent près d'une heure, frémissant d'impatience et se léchant les lèvres. Enfin, une charrette environnée de troupes glissa lentement au milieu de la foule comme un esquif sur l'eau fangeuse d'un marais. Alors, ce furent des cris d'enthousiasme, des bravos, une joie frénétique. Ils avaient craint, les braves gens, que l'exécution ne fût remise. Le bâtard de Rummelstein était debout sur la charrette, le cou nu, la poitrine découverte, les mains liées sur le dos. À sa droite était un prêtre agenouillé, à sa gauche le bourreau vêtu de noir. Le prêtre était pâle, le bourreau avait une bonne figure, toute rouge. Le bâtard était calme et froid, comme un homme qui sait tout de la vie et qui n'attend plus rien que de la mort. Pourtant, un sourire amer glissa sur ses lèvres lorsqu'il entendit hurler la foule. Ce cri de chacal le fit tressaillir. Il avait espéré l'indifférence. Il trouvait de la rage. « J'avais raison, » dit-il au prêtre. « C'est faire honneur à l'homme que de l'appeler un tigre. »«
Pardonnez-leur, » dit le prêtre. « Ils ne savent ce qu'ils font. » »«
Que leur servirait mon pardon ?» fit le bâtard avec un sourire de mépris. « Je ne puis me venger. »
« C'est pour vous, mon frère, pour votre salut, que le pardon est nécessaire, » reprit l'ecclésiastique.
« Vous me prêchez l'égoïsme, » s'écria Rummelstein, et ses yeux étincelèrent d'indignation. « Au fait, » dit-il avec une ironie poignante, « vous me donnez un conseil d'ami. Le pardon ne m'engage à rien. C'est d'une adroite politique. » Le prêtre baissa la tête. La charrette avançait toujours. Un profond silence s'était alors établi sur le passage du convoi. Quelques paroles arrivaient jusqu'aux condamnés. Ils les recueillaient comme le dernier adieu d'un monde en face de l'éternité.
« Quelle figure de scélérat !» disait un vieux médecin. « La bosse du crime est développée sur sa tête d'une manière effrayante !»«
Et la bosse du vol aussi !» ajoutait un usurier. « L'occasion lui a manqué !»«
Il a peur !» disait un lâche.
Il vous regarde effrontément, disait une fille de joie.
C'est le doute qui a perdu cet homme, disait un philosophe.
C'est l'envie, la basse jalousie, qui ont tué ce misérable, disait un critique.
Karl partit d'un éclat de rire rabelaisien en mettant le pied sur l'échafaud.
Le malheureux est fou, dit le prêtre. Il n'a voulu ni se confesser ni communier. Il rit en présence de la mort. « Son âme est damnée pour l'éternité !»
Et le prêtre se signa trois fois, pendant que les valets du bourreau garrottaient le bâtard sur la planche. « Entendez-vous ce frémissement qui passe sur la foule comme une rafale à la cime des vagues ?»« C'est l'horreur de la mort qui pèse sur 20 000 poitrines, qui suspend 20 000 haleines. Pas un cri, pas un soupir, pas un murmure. Le silence est effrayant. » Et puis, entendez-vous là-bas, là-bas, bien loin derrière la foule, cet orgue qui pleure comme la voix d'un mourant. Mon Dieu ! C'était, je crois, les dernières pensées de Weber. Pensées sublimes, déchirantes, comme les adieux d'un homme de génie au monde qui l'a méconnu. Karl entendit cette musique. Oh, que de tristes souvenirs, que d'amères déceptions reflure alors à son cerveau. C'était le chant de sa mère. Il revit la pauvre bohémienne. Il revit aussi sa sœur. Et leur petite mansarde, où la faim, le froid, la misère venaient les torturer. Il regretta tout cela, oui. Il le regretta. Et le monde aussi, avec ses railleries, ses dédains, ses injustices.
toute sa vie résumée dans quelques notes plaintives. Il sentit une larme couler sur ses joues. Il entendit bondir son cœur dans sa poitrine, son sang bouillonner dans ses veines. Il sentit les mains des bourreaux enlacer ses membres, puis les poutres vibrer, une douleur aiguë, un éclair, le néant, peut-être l'éternité. Dirais-je la foule qui rentre triste et pensive dans ses quartiers. Madame la comtesse de... qui retourne à son hôtel, traînée par 4 superbes chevaux. Monsieur le marquis de... qui retrousse ses moustaches en disant « Après tout, c'était un fier coquin. Il est mort sans sourciller. » Ou bien encore, monsieur Janotus qui s'écrie « La justice des hommes est satisfaite. L'assassin du baron, Yann de Pirmesens, ne souille plus la surface de l'univers. » Non. Notre drame est fini. Émile Erckmann-Chatrian.